Chères auditrices, chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à notre troisième émission du nouveau cycle « Les Dor Vador, la musique hébraïque de génération en génération », qui a pour vocation de vous faire découvrir ou redécouvrir divers aspects de la musique hébraïque de tous les temps. Et je dis « nous » parce que mon fils Léo Sabot s'est joint à moi, Hector Sabot, depuis la première émission dans un dialogue qui reflète justement la transmission de notre musique hébraïque de génération en génération. Bonjour Léo.
Bonjour.
Eh bien, nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui le troisième volet de notre cycle. Après l'émission de la semaine dernière où nous avons abordé la musique judéo-espagnole, nous allons présenter aujourd'hui la musique judéo-italienne à partir des traces anciennes datant de la période historique connue sous le nom de la Renaissance. Cette période caractérisée par les nouveaux palais des rois et des nobles seigneurs, palais qui remplacent progressivement les anciens châteaux médiévaux. L'un des événements majeurs qui a changé la face du monde médiéval et de la civilisation juive en particulier, c'est la découverte de l'Amérique par les royaumes d'Espagne. Découverte qui coïncide précisément avec l'expulsion des juifs de la péninsule ibérique. Et c'est l'Italie précisément, c'est en Italie qui ont été accueillis un certain nombre de juifs fuyant l'Espagne. Ils ont amené avec eux leur rite sfarad, l'un des trois rites majoritaires pratiqués par les vagues successives d'immigration juive. Il y a eu également l'immigration de juifs ashkénazes venus de l'autre côté des Alpes. Et puis, il y avait sur place déjà les plus anciens, les juifs italiens, qui avaient leur propre rite.
Mais il n'y avait pas l'Inquisition à cette époque-là ?
Oui, Léo, bien sûr, l'Inquisition était déjà en place depuis le Moyen-Âge et consistait dans un système qui persécutait et punissait les gens qui n'adhéraient pas sincèrement aux dogmes catholiques dominants à l'époque. Mais l'application de ces lois était variable selon leur région et selon la volonté politique des différentes autorités au pouvoir. L'Italie n'était pas encore unifiée comme aujourd'hui, mais divisée dans de nombreux États et royaumes. L'un des plus puissants était justement l'État pontifical établi à Rome. Il était gouverné par les papes et accueillait des juifs, les juifs venus d'ailleurs avec plus ou moins de bienveillance. Les papes n'étaient pas tous hostiles aux juifs et plusieurs parmi eux les ont bien protégés, en s'opposant aux populations qui n'acceptaient pas toujours la présence juive à leur côté. C'est pourquoi, à partir du début du XVIe siècle, il y a donc cinq siècles, les autorités italiennes, à commencer par les Vénitiens, ont commencé à regrouper les populations juives dans des ghettos, d'un côté pour les séparer des populations chrétiennes, de l'autre côté pour les protéger des agressions des gens hostiles à leur présence. Et c'est dans les ghettos que les juifs ont constitué des communautés, qui ont construit leur synagogue, et c'est là où la musique s'est pratiquée entre autres disciplines. Mais en plus, les juifs italiens ont créé des écoles de musique, des vrais ancêtres de nos conservatoires. Et dans ces écoles, de nombreux musiciens ont été formés tout au long du XVIe siècle. Quand on parle de musique juive italienne, un seul nom surgit, celui de Léo ?
Salomone Rossi.
Salomone Rossi, très bien. Mais lui, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg musical judéo-italien de la Renaissance. Une longue tradition de plusieurs générations le précède et prépare son éclosion telle qu'il arrive dans la musique classique, par exemple avec Bach ou Mozart, au XVIIIe siècle. Eux aussi sont précédés d'une longue tradition musicale de quelques générations qui ont préparé les terrains où ils ont pu éclore. Pour Salomone Rossi, les précurseurs s'appellent Thomas et Joseph Lupo ou Hieronymus ou Augustine Bassano. Ces noms judéo-italiens représentent plusieurs générations de musiciens, compositeurs et facteurs d'instruments de musique de père en fils, mais aussi de père en fille, qui ont brillé pendant toute la Renaissance. Mais je te raconterai, Léo, un peu plus tard cette histoire, après le premier extrait musical de Salomone Rossi, un chant monodique accompagné d'une polyphonie instrumentale dans un traitement typiquement Renaissance.
Et c'est quoi précisément un chant monodique ?
Ah ben, un chant monodique, c'est un chant à une seule voix. C'est le contraire de la polyphonie où plusieurs voix chantées cohabitent dans un même chant. Écoutons ce premier chant. Eh bien, nous avons entendu Shir HaMa'alot, un extrait, juste le début, chant des montées, Ashrei Kol Yireh, heureux tous ceux qui craignent le Seigneur et suivent ses chemins. C'est ainsi que débute le psaume 128 que l'on vient d'entendre et dont le titre désigne un psaume qui était chanté lors des trois fêtes de pèlerinage, lorsque les Hébreux montaient à Jérusalem pour les fêtes de Pessah, Sukkot et Shavuot. Tu suis bien, Léo ?
Eh oui.
Salomon et Rossi s'expriment ici avec un langage musical des plus raffinés et un usage à son époque, la fin du XVIe siècle en Italie du Nord. Nous aurons l'occasion d'en parler plus en détail de la musique de Rossi lors de notre prochaine émission. À présent, je te propose, Léo, d'écouter un tout autre style de musique judéo-italienne, celle issue de la tradition populaire des Juifs de Venise. La musique de juifs italiens en général n'est pas très connue de nos jours et seulement un nombre réduit d'enregistrements et de partitions illustre ce très riche patrimoine musical. Dans la période qui nous concerne, les années 1500 à 1600, un bel album illustre des chants judéo-italiens. Il s'agit d'un CD intitulé « La Historia de Purim », musique et poésie des juifs en Italie à la Renaissance. L'ensemble Lucidarium nous présente ici un bel échantillon des musiques de la fête des Purim, mais aussi des chants du Seder de Pessah, avec un allègre mélange d'air liturgique en hébreu, des chants en italien et même des chansons en yiddish. De ces derniers types, on va écouter en premier les chants Das Lied von der Streife in Venedig. Une chanson un peu cocasse qui parle d'un incendie à Venise et où juifs et vénitiens chrétiens travaillent en étroite collaboration, invoquent l'aide des dieux pour l'aider à éteindre le feu.
Vorrei cantare un poco con la misera mia voce e dirvi di quel fuoco, dell'incendio atroce che fe tanti senza tetto, spingendosi veloce fra calli, ponti e il ghetto per volere del Signore. Grande fu il clamore al bruciare di Rialto, grida di dolore si levarono su in alto, e giovani e anziani, ricchi e commercianti, ebrei e veneziani invocavano il Creatore. Ma a pensare alla razzia, ahimè, furono in tanti. Come presi da follia si fecero furfanti e volendo diventare ricchi in pochi istanti, continuavano a lodare la grazia del Signore. Noch bälle heute in Winzig singen mit meine Poesie toll und neue Käsen mengen, wie er man wissen soll. Von der Marken der Magen, durch jedes lustosig Mal, zu Winde Kinder strebe, schon Sarah verwundern. Es posse in großen Jammer, da doben Terrias, un quai fight un niente l'ama non con joden jung un alt joden roffen joden dosi kemen bald und blocks gret oi floden le mana bonan. Men wollt sich wenn ich euch laden und schickt sie in die Welt. Erklärten Schaden, sie gingen auf Basel. Sie meinten reich zu werden, gar in kurzer Zeit. Sie suchen das Unglück gern und dann nimmer Bonheit.
Voilà, nous avons écouté un bref extrait de cette longue chanson où l'italien alterne avec le yiddish et où l'on entend même quelques mots en hébreu. Qu'est-ce que tu penses, Léo ?
Le yiddish en Italie, c'est un peu bizarre, non ?
En effet, on pourrait le croire, mais les références sont bien là et la cohabitation entre les juifs venus d'horizons divers, chacun avec sa culture d'origine, est là et bien présente.
Et la tradition italienne, elle ressemble à quoi ?
Selon les études faites par les musicologues spécialisés, les juifs italiens faisaient un peu comme leurs voisins catholiques. Ils improvisaient beaucoup et empruntaient des airs dans les folklores environnants en insérant leurs particularités identitaires. On va entendre un bel exemple maintenant, justement à propos du titre de l'album présenté, la Canzonetta da Purim, la chansonnette de la fête des Purim. Tu sais bien, Léo, que pendant cette fête, on boit, on mange, on rigole et surtout on fait beaucoup de bruit lors de la lecture de la Megillah, l'histoire de la reine Esther, à chaque fois que le nom de Haman est prononcé. Voici comment les musiciens italiens de l'ensemble Lucidarium recréent l'ambiance de cette joyeuse fête dans leur style.
Questa canzone è stata fatta la sera di Purim, da celebrarsi la sera seudà. Per star allegre tutti insieme a bevere e mangiare a crepa panza.
C'est bien amusant tout ça pour la fête de Purim, mais tu as parlé avant aussi de la fête de Pessah et des chants de la Gada, le livre de prières qu'on lit et qu'on chante pendant le repas du soir de la fête de Pâques. Est-ce qu'il y a un chant de cette tradition musicale typiquement italien ?
Eh oui, bien entendu. J'ai été surpris moi-même de découvrir que le tout dernier chant du Seder de Pessah, le fameux Haggadia, qui est chanté en araméen, est vraisemblablement d'origine italienne. Il raconte l'histoire du chevreau que Monsieur le Père avait acheté pour 2 écus au marché et qui a été mangé par une chatte et que la chatte a été mangée par un chien et ainsi de suite jusqu'à l'arrivée des dieux tout-puissants qui a tué l'ange de la mort, qui avait tué les bouchers rituels, qui avait tué les bœufs, etc., etc. Écoutons.
C'est encore bien amusant tout cela. Mais nous étions restés un peu sur l'histoire des ancêtres de Salomone Rossi, le grand musicien juif de la fin de la Renaissance. Quelle est cette histoire que tu voulais raconter ?
Eh bien, revenons-en donc à cette histoire qui est super intéressante et vraiment peu connue. Lorsque les villes qui abritaient les ghettos pour les juifs comme Venise, Rome, Mantoue, Milan et bien d'autres ont vu l'apparition des écoles de musique, un nombre important de musiciens juifs s'y est formé. Certains musiciens sont devenus célèbres et recherchés, notamment dans les cours. Et figure-toi, Léo, qu'à Londres, où régnait la dynastie des Tudors, lorsque le monarque Henri VIII a voulu doter sa cour d'un ensemble prestigieux et à la mode, tel que ceux dont on avait entendu parler en Italie, par exemple, ses conseillers n'ont pas hésité à les recruter à Venise même, où ils ont trouvé les meilleurs musiciens recherchés pour la cour parmi les Juifs. C'est ainsi que les familles entières, comme les Bassano et les Lupo, ont décidé, tout en gardant bien le secret, d'aller travailler à Londres pour la maison royale, qui, elle, gardait bien de dévoiler leurs secrets aux autorités italiennes. Il y a eu aussi des musiciens venus d'Anvers, comme Philippe van Wilder, et même des femmes musiciennes des riches familles juives telles que Leonora Duarte. Une bonne partie de leur musique, essentiellement instrumentale, pour les raisons évidentes du secret, avait des origines juives bien précises. Figure-toi, Léo, que des musicologues actuels ont examiné bien en détail certaines de ces partitions d'apparence chrétienne qui utilisent des mélodies de style plein chant, des mélodies grégoriennes, mais ils n'ont pas du tout trouvé ces mélodies dans le répertoire musical catholique. Il est donc bien vraisemblable que ces mélodies venaient plutôt de la synagogue. Intéressant, n'est-ce pas? Toute cette histoire a été rendue publique grâce à une déclaration officielle d'un professeur de littérature anglaise, Roger Prior, qui a révélé en 1983 l'origine juive d'un nombre important de musiciens au service de souverains Tudor et Stuart, et cela malgré l'interdiction officielle de la présence juive dans le royaume d'Angleterre depuis leur expulsion en 1290. On atteste ainsi cette présence juive exceptionnelle entre 1540 et 1665, soit 125 ans de présence musicale juive à la cour d'Angleterre. Et enfin, la réintégration des Juifs aux îles britanniques date précisément de 1655, donc 10 ans avant la disparition du dernier musicien juif de la cour. Voici donc l'histoire des ancêtres musiciens de Salomon et Rossi, ceux qui ont bâti le terrain où il a pu se nourrir et se former musicalement. Nous allons à présent, Léo, terminer comme nous avons commencé, avec une mélodie de Salomon et Rossi, accompagnée, comme pour le premier chant que nous avons entendu, par un soutien instrumental tiré de la polyphonie de la pièce d'origine. Hash Kiveinu, prière du soir, qui invoque la protection divine, permet que nous nous couchions en paix. L'interprète est Jeremy Avis et il est accompagné par les musiciens de l'ensemble anglais Fretwork.
Yeah.
Nous arrivons ainsi à la fin de notre émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. Comme d'habitude, si ce n'est pas le cas, il y a toujours la possibilité de nous écouter en différé sur le site de la radio. La semaine prochaine, nous allons continuer avec notre parcours musical. Notre programme sera consacré à quelques-unes des œuvres majeures de la production polyphonique hébraïque de Salomon Rossi. Je vous dis alors à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de L'Edor Vador, la musique hébraïque de génération en génération. Et grand merci à Léo.
À bientôt.
Nitzachim.